Bon matin à tous!
Bon matin!
Vous allez bien?
Oui.
Bon, si ça va pas, vous êtes au bon endroit, ça va aller mieux. Je suis le pasteur Daniel Carré, je suis responsable des soins pastoraux à l'Église Nouvelle Vie. C'est une joie d'être avec vous pour vous apporter ce message. Un message hybride, on va le fusionner dans la série « Suivre Jésus » avec... c'est parce que j'étais supposé de prêcher ici le 20 janvier dernier. Et malheureusement, mon épouse a eu une petite urgence médicale, alors c'est pour ça que je n'ai pas été capable de venir prêcher ce matin-là. Je remercie Pasteur Mathieu qui, à la dernière minute, a répondu pour vous apporter la parole ce matin-là. Si vous ne vous souvenez pas de la journée du 20 janvier, c'était la journée de la tempête. Mais j'ai pris la route pour être à l'hôpital avec mon épouse. Donc, pensez pas que c'est à cause de la tempête, je suis pas venu prêcher, là. On avait une autre tempête qu'on vivait. Et donc, je veux fusionner le message que j'étais supposé de vous apporter à ce moment-là. Puis, ça va avec le message de suivre Jésus. Il y a quelqu'un qui avait mis la photo suivante le 31 décembre sur Facebook. Ça disait ceci, parlant du 1er janvier. « Demain, la première page blanche du livre de 365 pages dont vous êtes le personnage principal, écrivez une histoire inoubliable. » Je comprends l'idée, hein, parce que là, c'était le 1er janvier, là, l'année était nouvelle, puis c'était un livre avec des pages blanches qu'on pouvait écrire. Mais c'est complètement faux. Et Visa te l'a rappelé assez rapidement que même s'il avait changé de date, hein, le compte est rentré pareil. Et ça, ce joke-là, en janvier, il est bien meilleur. Mais rendu à mars. Mais l'idée, c'est la suivante. Hein? Des fois, on pense que, bon, là, c'est ma fête. Ah, là, ça va être nouveau. Hein? Là, il y a un anniversaire. Ah, là, j'ai pris une décision. Là, puis là, ça va être nouveau. Il y a quelqu'un qui a défini la folie comme ceci. C'est de prendre les mêmes décisions, de faire les mêmes actions et s'attendre à des résultats différents. C'est ça, la folie. C'est de penser que je fais les mêmes choses, puis que là, il va y avoir quelque chose de différent qui va prendre place. Non, si je veux que les choses soient différentes, il va falloir que je prenne des décisions nouvelles, que je fasse des actions nouvelles. Si je suis pour suivre Jésus, ben il y a des choses qu'il va peut-être falloir que j'ajuste, que je change et que je fasse de nouvelles actions et de nouvelles décisions. Parce qu'il y a un danger de rester dans la routine. Et en tant qu'être humain, on aime la routine. Pas eu d'amen de confession, mais c'est correct, j'ai entendu vos cœurs. Hein? On aime la routine. Pourquoi? Parce que c'est connu. Et on aime le connu, parce qu'on se pense sécure dans le connu. Mais c'est mortel, le connu. C'est mortel, la routine. Le concept de rester toujours dans ce qu'on connaît, c'est le concept de l'homéostasie. Vous êtes tous homéostatiques. Voici ce que ça représente. L'homéostasie, c'est le phénomène de vouloir répéter les mêmes choses tout le temps. La preuve, vous êtes probablement assis à la même place que vous êtes toujours assis. Et c'est comme ça que votre pasteur sait que vous n'êtes pas église, parce que les chaises sont vides. Vous aidez la job du pasteur à savoir si vous êtes là ou pas. Les chaises sont vides. Vous avez fort probablement pris le même chemin pour venir à l'église ce matin, alors qu'il y a peut-être deux, trois façons d'autres de le faire. Vous avez probablement mis vos pantalons avec la même jambe pour commencer. L'homéostasie, on ne s'en rend pas compte à quel point on aime nos routines puis on se sent sécure dans nos routines. Le problème, c'est que si je reste juste dans ma routine, il n'y a rien de nouveau qui va se passer. Je vais avoir les mêmes résultats que j'ai toujours eu si je reste dans ma routine. Et c'est là que c'est mortel, la routine. Pour suivre Jésus, j'ai besoin de passer à des actions nouvelles, à des décisions nouvelles. Et ce matin, je vais regarder l'exemple de Moïse qu'on retrouve dans le chapitre 3 du livre d'Exode, les versets 1 à 12, où on lit ceci. « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse! » Et il répondit, « Me voici! » Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. » Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Et Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Il y a quatre points que je veux regarder avec vous ce matin. Premièrement, de s'arrêter dans sa présence. Deuxièmement, d'accepter son pardon. Troisièmement, d'admettre ses peines. Et quatrièmement, d'avancer dans ses promesses. Laisse-moi te donner un peu le contexte de ce qui se passe ici. Moïse a 80 ans. Moïse est rendu à l'âge de 80. Ça fait 40 ans qu'il vit dans le désert où il travaille comme berger. Il est marié, il a des enfants, il n'est pas très riche, il vit encore avec le beau-père. Et qu'est-ce qui l'a amené dans cette situation-là? C'est un échec et une erreur monumentale qu'il a commis, une faute grave qu'il a fait. Voici comment Acte 7 le décrit. Ça dit, « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » T'as vu ce qui est marqué? Puissant en parole. Pourtant, quand Dieu appelle Moïse, Moïse va dire quoi? « Je peux pas, j'ai de la misère à parler, je bégaye, j'ai de la misère. » Non, ça c'était l'image de Moïse de lui-même. Mais la parole de Dieu dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. OK, frappa, là, il l'a tué. OK, il l'a frappé solide, là. OK, il l'a tué. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Tu vois, Moïse avait décidé... Il a grandi, dans les palais royaux égyptiens, avec la meilleure éducation du monde civilisé de l'époque. Et en plus, il ressent l'appel de Dieu à libérer Israël de l'esclavage. Il a tellement de prestige, il a tellement de talent, il a tellement de confiance en lui-même, il a tellement de capacité puis de pouvoir, il décide de prendre l'appel de Dieu entre ses mains et il va tuer un Égyptien. Et au lieu qu'Israël dise « Voici notre libérateur », ils ont dit « Wow, il se prend pour qui, là, lui, là? » Il leur a fait peur. Et Israël, les Israélites, vont rejeter Moïse au lieu de le suivre. Il est rejeté par le peuple qui voulait aider. Et c'est toujours comme ça avec le plan de Dieu dans ta vie. Si tu prends le plan de Dieu entre tes mains, tu vas échouer. Si tu veux accomplir le plan de Dieu, tu vas avoir besoin de Dieu. Et là, on le retrouve 40 ans plus tard. Suite à cet échec, cette faute capitale, il va se réfugier dans le désert, il va aller se cacher dans le désert. Il est dans la honte, il est dans la culpabilité, il est dans les regrets parce qu'il a gaspillé l'appel de Dieu sur sa vie, le plan de Dieu, il l'a gaspillé. Il est sans coupable. Et il a peur. Il va se cacher pendant 40 ans dans le désert. Et 40 ans plus tard, c'est plus le même homme. 40 ans dans le désert, ça va transformer ton cœur. D.L. Moody a résumé la vie de Moïse comme ceci. Il dit, les premiers 40 ans de la vie de Moïse, c'est ce que je peux faire. Les deuxièmes 40 ans, c'est je ne peux rien faire. Le troisième 40 ans, c'est ce que Dieu peut faire. J'aimerais te suggérer ce matin que tu n'es pas obligé d'attendre 40 ans pour le comprendre. Sauve-toi une étape. OK? Tu penses que tu peux le faire, tu peux pas rien faire, mais avec Dieu, tu peux faire de grandes choses. OK? On est déjà rendu à la troisième étape, c'est beau, on vient te sauver 80 ans. Bon. Alors qu'il est loin dans le désert, qu'il est dans sa routine quotidienne, il remarque qu'il y a quelque chose d'anormal qui prend place et il va s'arrêter dans la présence de Dieu. Le verset 2 et 3 dit ceci, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Tu vois, dans le désert du Sinaï, il n'y a pas d'arbres, il y a juste des arbustes. Et ils sont petits, et ils sont très secs, et ils sont remplis d'épines. Et le climat est tellement aride et chaud qu'il n'est pas rare qu'un buisson va éclater en feu juste à cause de la chaleur qui va prendre place, juste à cause des rayons de soleil qui le frappent, il va éclater en feu. Parfois, ça peut être un éclair qui va le frapper, mais bien souvent, juste la chaleur intense du désert, parce qu'il est tellement sec et aride, il va éclater en feu. On parle d'autocombustion. Mais étant très sec et très petit, bien, ça brûle très vite. Puis il ne reste plus rien. En 40 ans dans le désert, ce n'est pas la première fois que Moïse voit un buisson en feu. Ce n'est pas la première fois qu'il en voit un. Mais ce jour-là, alors que Moïse est dans sa routine quotidienne, il n'y a pas d'anges qui sont levés le matin pour lui dire « aujourd'hui, t'as rien ». Non, non, il est juste dans sa routine, il est au travail, il est dans sa routine. Il remarque que ce buisson-là, par contre, ne se consomme pas. Et c'est ce qui attire son attention. Et ça nous dit que Moïse s'est arrêté et il a fait un détour pour s'approcher du buisson. Il s'est arrêté là où il était et il a fait un détour volontaire, intentionnel, pour aller vers le buisson pour voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ce buisson-là parce qu'il ne se consomme pas. Il continue de brûler. Et je me demande combien de fois est-ce que Dieu agit dans notre routine quotidienne et on ne le voit pas. On ne se rend pas compte que Dieu est à l'œuvre, que Dieu, il y a une manifestation de la présence de Dieu dans notre routine quotidienne. Parce qu'on est tellement occupé et préoccupé qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. On n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous parce qu'on est tellement préoccupé et occupé dans nos pensées, dans tout ce que nous sommes, et on perd, on ne se rend pas compte que... Vous n'avez pas l'air convaincu? OK, vidéo. On voit pas. Mais t'as-tu remarqué? Moi, c'est pas les gens qui ont tombé qui me préoccupent. C'est les gens qui passent à côté. Là, ah, tombé dans la fontaine. Ah, ben, coudonc. T'as vu l'autre qui s'en vient avec son lunch dans les escaliers? Il s'en vient avec son. Ça, mon lunch, m'en va dîner, moi, là. On est tellement occupé. On n'observe plus. On est dans nos bulles. On se rend pas compte. Il y a pire que ça, hein, si tu vas sur YouTube. Il y a pire que ça. Tu vois, il y a des gens qui marchent, puis l'autobus s'en vient, et bang! Parce qu'ils ne regardent pas. Mais les personnes ne sont pas mortes, là. Inquiétez-vous pas, là. Mais ils sont poqués un petit peu. Parce qu'on est préoccupé, on n'écoute pas. Laissez-moi essayer de développer votre sens d'observation. Première photo. OK, combien voyez les deux personnes âgées qui se regardent les yeux dans les yeux? Ah, vous les voyez? Ah, mais il y en a qui voient deux hispanophones qui sont en train de... Hein? Il y en a un qui joue de la guitare, puis là... Prochaine photo. Combien... Non. Combien voit le monsieur avec les grands cheveux blancs? Hein? Ah! Mais il y en a d'autres qui voient l'hispanophone qui est sur son cheval. Attends, je cherche le cheval. Prochaine photo. Fixe les quatre points noirs dans le milieu. Il y a quatre points noirs dans le milieu, fixe-les. De toute ta concentration, ne regarde que les quatre points noirs. Pense pas à rien d'autre, fais juste regarder les quatre points noirs. Focus sur les quatre points noirs, Tu focuses sur les quatre points noirs, tu fais regarder que les quatre points noirs, OK? OK, ferme les yeux. Y en a-tu qui l'ont vu? Hein? Qu'est-ce que je te souviens? OK, on le réessaye. Parce que vous n'écoutez pas les instructions, c'est pour ça. Focus sur les quatre points noirs en plein centre. Fais juste regarder les quatre points. Regarde les quatre points, juste les quatre points. Tous tes yeux sont sur les quatre points. Tu focuses sur les quatre points. Tu regardes les quatre points. Tu ne regardes pas ailleurs. Juste les quatre points. Tu fixes les quatre points. OK, tu fermes les yeux. Oh, là, il y en a qui l'ont vu. OK, on continue le message parce qu'en a, on pourrait être ici encore longtemps. Là. Mais... Qu'est-ce qu'on a vu? OK. Tu vois, on est tellement préoccupé qu'on ne se rend pas compte que Dieu veut se manifester dans nos vies et que sa présence, elle est là. On vient à l'église. Bon temps de fraternité, c'est bon de se revoir, on se donne la main, on fait quelques chants de louange. Et vous comprenez que la louange, ce n'est pas pour réchauffer la salle. Ce n'est pas l'introduction. Tu sais, si on va réchauffer la salle, puis là, le prêcheur, le prédicateur, il va prêcher. Non. On vient et on ne se rend pas compte que dans la louange, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On vient dans sa présence. Et on vient à l'église. On a un bon temps, on est béni par la parole, puis on s'en va, puis on ne se rend pas compte qu'on était dans la présence de Dieu, que Dieu voulait parler à nos cœurs. Pire que ça, parce que Dieu, il ne reste pas ici. Vous comprenez que quand on quitte, Dieu quitte. Dieu ne vit pas ici, là. Ça va? C'est quand deux ou trois sont réunis en son nom qui est au milieu d'eux. Quand la bâtisse est vide, il n'y a pas de Dieu ici, là. Amen? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans nos routines, on manque la présence de Dieu dans nos routines quotidiennes parce qu'on est tellement occupé, on ne pense pas que Dieu peut se manifester. Je ressemble trop souvent aux disciples sur la route d'Emmaüs. Rappelez des disciples sur la route d'Emmaüs, ils sont découragés, ils sont déprimés, Jésus était crucifié. Et là, ça nous dit la parole qu'ils marchaient sur la route, puis Jésus marchait avec eux autres. Jésus ressuscité marchait avec eux autres, mais ils ne l'ont pas reconnu. Hey, les boys, c'est Jésus, il marche avec vous autres. Ah, on est déprimés, on est découragés, ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche, il n'y a plus rien qui marche. Puis quand Jésus va leur demander, qu'est-ce qui se passe, les boys? Ben, t'arrives d'où, toi? T'as pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont crucifié Jésus. C'est Jésus, il marche avec Jésus. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais combien de fois c'est nous autres? On marche avec Jésus, puis on ne se rend pas compte que Jésus est juste à côté de nous autres. Il marche avec nous autres. Oh non, on n'a plus rien qui marche. Jésus est là. Il est à côté. On ne prend pas conscience de sa présence. Moïse est à son travail ici, là. Est-ce que tu vois Dieu à ton travail? Si tu connaissais mon boss, tu verrais que c'est pas Dieu. Non, mais Dieu peut se manifester à ton travail. Dieu peut se manifester dans ta classe de cours, quand tu es aux études. Tu dis, ouais, mais moi, je suis une jeune maman avec des enfants, là, je chante les couches puis le biberon, moi, là. Tu penses-tu que Dieu peut se manifester? Oui. Oui, parce que tu en as besoin, en plus. Tu en as besoin qu'il se manifeste. Dieu veut se manifester dans nos vies, mais on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de se poser la question. Est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que Dieu est en train de se manifester à moi? Est-ce que je vais faire le détour nécessaire pour... Job 33 dit ceci, le verset 14. « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. » On n'y fait pas attention. Et pourtant, Dieu veut nous parler, Dieu veut manifester sa présence. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Montmagny, il y a plusieurs années de cela, et pasteur Jacques Moyon a été pasteur à Montmagny aussi, et on a survécu. Et je me souviens, c'était le temps de Noël, et puis quand tu es pasteur d'une petite église, il faut que tu fasses tout. Et puis, je venais de terminer les dernières livraisons des paniers de Noël pour aider les gens qui étaient moins fortunés. Et puis, c'était le dernier panier qui avait été livré. Et là, je veux juste m'en aller chez nous. Je suis fatigué. Et là, je tombe en vacances. Et là, je veux juste rentrer au bercail. Puis, je veux m'en aller. Je suis fatigué. Et je suis au milieu de mon panier. Puis, il y a un chemin de fer qui est là. Et tout à coup, il y a un train qui arrive. Les barrières tombent, puis le train arrive. Ah non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Et là, il y avait quatre locomotives. Habituellement, ils ne gardent pas des locomotives comme des spares, OK? Ça veut dire qu'il y en a des wagons qui s'en viennent. Et effectivement, il y avait des wagons. Et il y en avait des wagons, et il y en avait à peu finir. Et là, je bougonne, puis je suis... Ça grimpe en moi, là. Et là, arriva ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive. Il s'est mis à ralentir. Tu sais, la parole dit que tu peux faire déplacer des montagnes. Moi, j'essaie de faire déplacer un train. Ouais. Tassez-moi ça de là que je puisse passer m'en aller chez nous. Et non seulement il ralentit, mais il arrête. Non, non. Non, 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 non. Parce que je savais qu'est-ce qui s'en venait. Hein? Il s'est mis à reculer. Tous les wagons que j'avais passés, je les ai revus, mais en sens contraire. Et là, je bougonne, je ne suis pas de bonne humeur dans mon auto. Je veux juste m'en aller chez nous. Et j'ai une petite voiture à l'époque, 3 cylindres, une machine à coudre. Et Puis à l'époque, c'est des lecteurs cassettes, OK? J'en ai même pas de lecteurs cassettes dans cette affaire-là, il y a juste une radio. Et à la radio, parce qu'on est juste avant Noël, c'est tous des chants de Noël. Les chants de Noël qui chantent quoi? La venue de Christ. La venue du Fils de Dieu. Que c'est pour ça qu'on chante Noël. Et c'est juste comme si Dieu m'a arrêté là, dans ma petite voiture. Il m'a dit, Daniel, t'as-tu oublié? Tout ce que tu fais là, c'est pourquoi? T'as-tu oublié? Et littéralement, j'ai eu un moment de buisson ardent dans ma voiture, alors que le train passait, puis repassait, puis repassait, à écouter des chants qui annonçaient la venue de Jésus en ce temps de Noël. J'étais presque déçu quand le train a fini. Presque. Mais Dieu voulait juste saisir mon attention. L'été dernier, je suis à 132, je m'en vais au travail. Accident sur 132, la 132 devient stationnement. Et là, je vois des gens qui commencent à... Tu sais, des gens qui s'énervent dans l'auto, là. Hein? Vous avez déjà vu ça? Ah, c'est peut-être une siège à côté, là, mais bon. Puis là, tu te dis, bien, s'énerver, pourquoi? Quand même, je m'énerverais. L'accident est là. Puis littéralement, on éteint les voitures. Il n'y a rien qui bouge. Puis je suis dans la mauvaise voie, je suis dans la voie la plus loin. Les gens essaient de se faufiler pour pogner une sortie. Moi, je suis pogné. Je ferme la voiture. Je ferme la radio. Ben, je dis, Seigneur, tu voulais avoir mon attention, tu l'as. Puis j'ai eu un temps avec Dieu. C'est génial, sa présence était là. J'ai été capable. Combien de fois est-ce que Dieu va essayer de te parler, mais tu passes à côté, tu es trop occupé. Puis là, tu te frustres. Peut-être parce que Dieu va avoir ton attention. Quand tu es pris en ligne, hein, t'es en ligne, j'haïs ça avec les... Moi, j'aime pas ça être en ligne. Tu sais, quand t'es en ligne, il faut t'attendre. Ça se peut-tu que Dieu veut juste que t'arrêtes, que tu saches qui est Dieu? Pas eu d'amen, là, mais bon. Tu vois, Moïse s'est arrêté et il a fait un détour et il s'est approché du buisson. Il a été intentionnel à réaliser la présence de Dieu. Il a été intentionnel. Tu as besoin d'être intentionnel. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a vu Moïse qui s'approchait. Tu vois, quand tu t'approches de Dieu, Dieu te voit. Quand tu t'approches de lui, il va te voir. Jean 4, verset 8, ça dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Si tu t'approches de Dieu, il va s'approcher de toi. Parce que Dieu voit ceux qui le cherchent. Dieu voit ceux qui font un détour pour dire, « Seigneur, qu'est-ce que ta présence? » De m'arrêter dans sa présence. Si je veux qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie, si je veux suivre Jésus, j'ai besoin de m'arrêter dans sa présence et de dire comme Moïse, « Me voici. Me voici. » Mais j'ai aussi besoin d'accepter son pardon. Verset 5 à 6, ça dit, « Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Je crois que Moïse tentait de fuir Dieu dans le désert. Suite à son erreur, suite à sa chute, suite à son péché, il veut fuir Dieu, et quand il réalise qu'il est dans la présence de Dieu, il veut cacher son visage, il ne veut pas regarder Dieu. Tu vois, Moïse n'avait pas encore réalisé ce qu'il était pour réaliser des années plus tard, il était pour écrire dans Exode 34, les versets 6 et 7. « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Tu vois, il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce. Il pardonne plus rapidement que nous, on se pardonne souvent. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous, quand on regarde ça, on les voit comme des héros de la foi. Ah, Abraham, Isaac, oh, Jacob, oh, c'est des héros. Mais quand tu regardes leur vie, là, tu t'approches un petit peu de leur vie, là, tu te rends compte qu'ils étaient loin d'être parfaits, ces gars-là? Qu'au contraire, il y avait plein de fautes, plein d'erreurs, plein de choses qu'ils ont faites de pas correctes. Des hommes extrêmement imparfaits, mais pardonnés par Dieu. Et c'est comme si Dieu était en train de dire à Moïse, « Moïse, je suis le Dieu des imparfaits. » Là, ça aurait été important pour un « Amen ». C'est vous autres, ça, là. Mais Dieu dit, « Je suis le Dieu des imparfaits. » Moïse, je sais tes fautes, je sais tes erreurs, mais ma grâce est plus grande. Ma grâce est plus grande que tes fautes, tes erreurs. Regarde l'exemple d'Abraham, regarde l'exemple d'Isaac, regarde l'exemple de Jacob. Ce que j'ai fait avec eux, je peux le faire avec toi. Et il peut le faire avec nous. Et c'est pour ça que Dieu dit, enlève tes sandales. OK, enlève tes sandales. Bon, ça peut nous sembler étrange que Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales. Mais les sandales, c'est un symbole. C'est un symbole. Tu vois, Moïse porte des sandales de berger, parce que c'est un berger. Fait qu'il porte des sandales de berger. Et c'est comme si Dieu était en train de lui dire, « Enlève tout ce que tu es par toi-même. » Enlève tout ce que tu es. Si tu es dans la construction, il te dirait, enlève tes bottines de travail. Si tu es infirmière, il te dirait, enlève tes souliers d'infirmière. Si tu es comptable, enlève tes petits souliers de cuir italiens. Enlève ça, là. Hein? Si tu es maman à la maison, il te dirait, enlève tes pantoufles. Ou tes souliers de course, s'ils sont un peu plus grands. Enlève tout ce que tu es par toi-même. Ton identité, enlève. Enlève tous les diplômes. Enlève tous les accomplissements. Enlève toutes les lettres avant ton nom. Enlève toutes les lettres après ton nom. Viens comme tu es humblement devant Dieu. Enlève tout ce qui te définit. Tel que tu es, comme on chantait à l'époque, hein? Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Sans absolument rien à moi. Dieu dit à Moïse, Moïse, viens là, enlève tes sandales, enlève ton identité, enlève ce que tu penses que tu as fait, puis ce que tu es. Viens juste tel que tu es. Viens juste tel que tu es, humblement, humblement. Mais c'est le symbole aussi de la séparation entre Moïse et la présence de Dieu. Tu vois, les sandales sont en cuir et ça vient de peaux d'animal qui ont été tués. Et dans l'Ancien Testament, c'est toujours un symbole du péché. Et Dieu est en train de dire à Moïse, « Enlève tes péchés, ce qui te sépare de Dieu. » Enlever ses sandales, c'est un acte de confession de ce qui nous éloigne, de ce qui nous sépare de Dieu et de son plan dans nos vies. C'est de réclamer 1 Jean, verset, chapitre 1, verset 9, qui nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu est en train de dire à Moïse, « Quand tu viens dans ma présence, là, viens tel que tu es, humblement. » Tel que tu es, sans aucune prétention, sans aucune confiance dans tes accomplissements à toi. Viens tel que tu es dans la vérité de ce que tu es. Un être imparfait qui a besoin d'être pardonné et tu as besoin de recevoir son pardon. Si tu veux marcher, si tu veux suivre après Jésus, si tu veux avancer dans les plans que Dieu a dans ta vie, tu as besoin d'enlever tes sandales. Et de venir humblement t'éloigner de ce qui te sépare de sa volonté dans ta vie. Mais tu as besoin également, troisièmement, d'admettre tes peurs. Dans Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu, mais qui suis-je? C'est comme si Moïse demande, « Qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec un vieux berger de 80 ans? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? J'ai 80. » Moïse pensait encore comme avant le désert. J'ai échoué ma vie. Pourquoi tu me parles maintenant alors que j'ai 80? Là, je vais devoir faire seul par mes propres forces. J'ai plus les contacts en Égypte, j'ai plus les réseaux, j'ai plus les pouvoirs, j'ai plus les ressources financières, j'ai même plus de réputation, j'ai même pas ce qu'il faut pour libérer Israël. Puis quand je l'avais, j'ai échoué. Fait qu'imagine maintenant. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec moi? Et tu vois, Moïse a peur d'aller en Égypte parce que c'est le lieu de son échec. C'est le lieu de sa chute. C'est le lieu de son erreur. Et des fois, c'est la même chose pour nous. Parfois, on se demande, mais qui suis-je? Qui suis-je pour que Dieu fasse quelque chose avec moi? Ben, voyons donc. J'ai pas de réseau, j'ai pas de contact, j'ai pas de ressources financières, j'ai pas de talent, j'ai pas de don. Qu'est-ce que tu veux bien faire avec moi? Puis en plus, j'ai peur de l'échec. Je suis pas parfait. Puis je ne veux pas retourner à des endroits où j'ai peut-être échoué dans le passé. Nelson Mandela a dit ceci. J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de la peur, mais plutôt le triomphe sur la peur. L'homme brave n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui a vaincu cette peur. Dans nos peurs, dans nos angoisses, j'ai besoin de les vaincre. Et comment je vais les vaincre? Quand Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi. » Je vais être avec toi, Moïse. Je ne te laisserai pas aller seul. Je vais être avec toi. Tu vois, il y a un texte qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Moïse, ne pas avoir peur. Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Et Moïse a besoin d'avancer dans ses promesses. Verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci serait pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Tu vois, Dieu n'a pas dit à Moïse, « Hey Moïse, va en Égypte, là. Va en Égypte, là. Va me chercher Israël, là. Et ramène-moi ça ici. Je t'attends. T'as 80, là, mais ah ouais, vas-y, là, va chercher, là, dis à Pharaon qu'il laisse aller, là, puis après ça, tu les ramènes tout ici, là, puis là, on prend du bon temps ensemble. C'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit à Moïse, Moïse, c'est parce que je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Dieu ne s'attendait pas à ce que Moïse libère Israël par lui-même, mais plutôt qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu pour ce que Dieu allait faire. Tu vois, Dieu allait faire quelque chose, il voulait juste que Moïse soit l'instrument. Pareil comme Jésus. Jésus dit, ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Moïse, je vais libérer mon peuple. J'aimerais que ce soit toi qui y aille. Tu vas être un instrument entre mes mains pour le faire. Parce que Dieu allait libérer son peuple et il voulait utiliser Moïse pour le faire. Pourquoi? Bien, dans 1 Samuel, c'est écrit ceci. Dans 1 Samuel 16, c'est écrit, « Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Il parle des frères de David ici. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Où est ton cœur ce matin? Où est ton cœur ce matin? Parce que c'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde à ton cœur ce matin. Et là, tu comprends pourquoi il y a des gens qui se lèvent tout à coup des fois dans l'Église, il y a des gens qui se lèvent dans le ministère, des gens qui se lèvent dans le christianisme. Tu dis, mais ils sortent d'où, eux autres? On ne les avait pas vus. On ne les avait pas remarqués. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, il regarde à nos cœurs. Où est ton cœur ce matin? Quelle est la sincérité, le désir de ton cœur ce matin? C'est ce que Dieu regarde. Tu vois, Dieu ne demandait pas à Moïse de tout faire. Il demandait simplement à Moïse de se laisser faire. Et ça, parfois, c'est difficile. Hein? On aime ça prendre les choses en main. Mais Dieu dit à Moïse, « Non, Moïse, prends pas les choses en main. Là. Tu l'as déjà fait, tu as vu ce que ça a donné. Je veux juste que tu te laisses faire. Je veux juste que tu sois mon instrument. » Et Dieu n'envoie pas Moïse seul. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est la réputation de Dieu qui est en jeu ici. C'est pas la réputation de Moïse. Ça n'a rien à voir avec Moïse, ça a à voir avec Dieu. Et c'est sa réputation. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est son Église. C'est son Église. C'est pas un autre. C'est l'Église de Jésus. C'est sa bien-aimée. C'est à lui, l'Église. C'est son royaume. C'est pas qu'on ait raison sur les autres. C'est son royaume. C'est sa lumière, c'est sa réputation qui est en jeu, pas la nôtre. Ça n'a pas rapport avec nous. Parce que je crois sincèrement que Dieu entend les souffrances autour de nous. Que Dieu entend les cœurs qui soupirent, qui sont pris dans l'esclavage, comme les Israélites étaient esclaves en Égypte. Que les gens qui sont pris dans les esclavages de dépendance, dans des esclavages de toxicomanie, dans des esclavages de désespoir, dans des esclavages d'être pris, puis ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Et qui crient, ils ne savent pas à qui crier, mais ils crient dans leur cœur, ils crient, et Dieu voit leur douleur, Dieu voit leur souffrance. Et il veut nous utiliser pour aller les conduire dans la terre promise. Ce n'est pas rapport avec nous, c'est rapport avec lui et le peuple pour qui il a donné sa vie, les âmes pour lesquelles il a donné sa vie, puis il a sacrifié sa vie à la croix pour nous. Mais pour Moïse, ça voulait dire, retourne au lieu de ton échec. Retourne au lieu où tu as échoué, Moïse. Et des fois, ça peut être la même chose pour nous. Ça peut être la même chose pour nous. Il y a plusieurs années de cela, alors que je priais puis je me demandais une direction de Dieu, Dieu me dit, ben, va falloir que tu retournes à l'université. À ce moment-là, j'ai 40 ans, 41 ans, puis Dieu me dit, il faut que tu retournes à l'université. Mais il faut que tu comprennes que j'avais déjà été à l'université. Aller à l'université, c'est un gros mot. J'ai déjà fréquenté l'université McGill à Montréal, en psychologie. Okay? Et je ne peux pas te dire où sont les bibliothèques, mais je peux te dire où sont toutes les bars autour de l'université McGill. Les bars, clarification, c'était avant Jésus-Christ dans ma vie, OK? C'est correct? C'est pas le mois passé, là, OK? Bon. Et je vais à l'université, mais il faut le dire vite, parce que je vais plus dans les bars de l'université qu'à l'université en tant que telle. Et là, je suis en psychologie, puis j'ai un cours qui s'appelle neuropsychologie. Neuropsychologie, le fonctionnement du cerveau, puis sur la psychologie, fantastique, phénoménal. Comprends rien, mais c'est bon, c'est bien bon. Mais je suis pas souvent en bibliothèque, je suis plus souvent dans les bars. Puis là, il arrive l'examen de mi-session. Et l'examen de mi-session, c'est parce que c'était tôt le matin, c'était à 8h30 le matin. Mais tu sais, quand tu rentres, tu as couché à 6h30, là. Hein? Puis je n'étais pas à la bibliothèque. Fait que je suis rentré à 6h30 un petit peu dans un autre univers. Hein? Fait que quand je n'ai jamais été à l'examen, là, j'ai dormi. Bon. Deux jours après, je me pointe l'année en classe, je vais voir le prof. Monsieur le professeur, je dis déjà, il est passé à côté, il a manqué l'examen. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ton examen final, il comptera pour 100% de ta note. Ça, c'est un deal. Ah, ben ça, j'aime ça. Ah, ben parle-moi d'un bon prof. Et je continue la session comme je l'ai commencé. OK? Plus souvent au bar, de temps en temps en classe, plus souvent au bar, de temps en temps en classe. Et. Pour moi, je n'ai pas de problème de confiance. Hein? Je me présente à l'examen pareil. Je me présente à l'examen. J'ai même pas lu le livre. Okay? Et je me présente à l'examen. Puis je me dis, tu vois, son examen, il n'y a pas de problème. Je comprends ça du cerveau, moi. Et je fais l'examen. Et à cette époque-là, on parle des années 70. Là. Il n'y a pas d'Internet. Tu ne reçois pas ta note par courriel privé. Non, non. Il affiche sur les murs du corridor du département des grandes, grandes feuilles, puis toutes les cours. Puis les classes, on est à peu près 400 dans nos classes à ce moment-là, OK? Toutes les classes de psycho, les murs sont tapissés, Et là, tu finis par trouver ton cours, puis là, tu as tous les étudiants, les 400 étudiants, avec leur nom puis leur note finale. Et ils n'impriment pas en ordre alphabétique. Mais plutôt en ordre de ta note. Ah, moi, j'arrive confiant. Hein? Moi, je regarde en haut. Là, il y a du monde qui rentre dans le corridor. Là, je regarde en haut, là, ils sortent. Voyons, c'est qui ma note? Ben voyons donc, toi. Ben voyons donc. Et là, j'ai trouvé ma note. Le dernier à 20 tuiles du plancher. La note finale. 7%. On ne pouvait pas aller plus bas, on était dans les tuiles du plancher. Là. La feuille arrêtait là. 7%. Et là, Dieu me dit, tu vas retourner à l'université. Parce que là, Seigneur... Puis là, tu sais ce qu'il faut faire hein, pour être admis dans un programme. On te demande un relevé de notes. Mais oui, c'est brillant, ça. C'est qui ce moineau-là, 7% en neuropsychologie? Okay? Je ne te dirai pas ma moyenne finale, mais ma moyenne finale, je te l'ai tapé solide en maîtrise en counseling. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. C'est ça la différence. Tu vois, Dieu est avec moi. Dieu ne nous laisse pas seuls. Quand il nous appelle, il dit, je serai avec toi. Si tu veux que les choses soient différentes, puis d'entrer dans les promesses que Dieu a pour ta vie, tu as besoin de prendre des décisions différentes. Tu as besoin, si tu veux suivre Jésus, tu as des pas de foi à faire. Tu as des pas d'obéissance à faire. De changer de la routine, des actions différentes, des décisions qui vont être différentes. Alors que les musiciens vont venir me rejoindre. Tu as besoin de t'arrêter dans sa présence. Puis de rechercher sa présence, puis de demander à Dieu qu'il te parle. Je regarde les ados qui sont ici. Là. Okay? Que Dieu a un appel sur vos vies. Comprenez que vous n'êtes pas au monde juste pour gaspiller de l'air. Là. Hein? Puis gaspiller la nourriture de vos parents. Okay? Vous n'êtes pas juste là pour ça, là. Dieu vous a donné la vie à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité. Et Dieu veut servir de vous autres pour atteindre les gens de cette société, de votre génération. Mais vous avez besoin de s'arrêter. Et plein ici, vous ne savez même pas, vous avez besoin de vous arrêter. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? C'est quoi le plan pour ma vie? C'est quoi l'appel que tu as sur ma vie? Quand on a demandé à Moïse d'aller, Dieu a dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? » Il dit, « J'ai un bâton de berger. » Il dit, « C'est ça, je veux que tu sois le berger de mon peuple. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que les dons que Dieu t'a donnés, afin qu'à travers ces dons-là, tu vas glorifier son nom? » Mais tu as besoin de t'arrêter dans sa présence, de demander à Dieu. Tu as besoin d'accepter son pardon, de dire, « Me voici avec mes fautes, avec mes erreurs, que je te confesse et je réclame ton pardon pour mes péchés. » De venir humblement devant toi. Il y a tellement d'appels et de plans de Dieu qui sont sabotés par nos péchés et nos dépendances. On a besoin d'enlever nos sandales et de dire, « Seigneur, je suis rien sans toi. Je suis rien sans toi. Je ne suis que poussière. » Et de réaliser que j'ai peur, puis d'admettre mes peurs. Si tu es sincère à demander à Dieu c'est quoi le plan pour ta vie, puis quand tu as la révélation, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas entendu de Dieu. Parce que le plan de Dieu va te faire peur. Va te donner la frousse de ta vie. Voici pourquoi. Parce que les endroits où dans le plan de Dieu que tu vas ressentir, les endroits qui sont l'impossible, c'est là que ça va te prendre Dieu. Et dans les plans de Dieu, ça prend Dieu pour les accomplir. Moïse va libérer mon peuple. Je ne suis pas capable. Non, je vais être avec toi. Je sais que tu as peur, mais je vais être avec toi. Tu vois, c'est moi qui vais agir. Il y a plusieurs années, Dieu m'a montré que ma vie, c'était comme un voilier. Je viens de la ville. OK, Seigneur. Ma vie, c'est un voilier, oui. Le Seigneur me dit, tu es responsable de tes voiles. OK? Travaille sur tes voiles. Pour moi, mes voiles, c'était de retourner à l'université puis d'aller chercher ma maîtrise. Ça, c'était mes voiles. Puis Dieu me dit, tu es un voilier. Tu es responsable des voiles. Moi, je vais être responsable pour le vent. Inquiète-toi pas pour le vent. Occupe-toi de tes voiles. Puis laisse-moi venir souffler le vent. Et tu vas accomplir les plans auxquels je t'appelle à accomplir. Là où tu as peur, c'est parce que tu as besoin du vent. Tu as besoin du vent de Dieu pour pousser, pour ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. D'avoir la bénédiction de Dieu sur ta vie, que tu vas toucher à des choses, puis il y a des portes qui vont s'ouvrir, puis tu vas pouvoir manifester le royaume de Dieu autour de toi. Mais tu as besoin d'admettre tes peurs. Puis quand tu as l'impression de dire, « Mais qui suis-je? Qui suis-je? » Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté. Et l'Esprit de Dieu vit en toi. Voilà qui tu es. Tu es un enfant du roi ce matin. Voilà qui tu es. Et avance dans ses promesses. Fais les pas de foi. Peut-être que tu as besoin de retourner à des lieux d'échec. Peut-être que tu as besoin de retourner puis de restaurer une relation qui est rompue par l'humilité et le pardon de restaurer une relation qui est rompue. Tu as peut-être besoin de retourner vers ton épouse, de retourner vers ton époux puis de dire, je sais qu'on a échoué là, mais faut qu'on s'engage toutes les deux. Il faut réussir. Et Dieu est avec nous. Dieu va réussir avec nous. De retourner à une implication dans un ministère, un service dans l'Église, de retour à l'appel de Dieu sur ta vie. Tu dis, ouais, mais je l'ai fait, ça. Si tu savais comment ça a fini. Bien, ce que je sais, c'est que si tu es encore vivant, c'est pas fini. Il y en a qui ont besoin de retourner. Il y en a, vous êtes à la retraite ministérielle. J'ai donné mes années dans l'Église, là, moi, là. Hey, là, je suis à la retraite. Moïse, à 80. Dieu a encore quelque chose à faire avec lui. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Qu'est-ce que Dieu te demande de retourner à? De retourner à l'obéissance, à sa voix. Ses principes, ses commandements, ses enseignements, obéir à sa parole. Tu as besoin d'y retourner, de retrouver ton premier amour. Peut-être que tu as simplement besoin de retourner dans les voies de Dieu ce matin. Malgré tes chutes, malgré tes erreurs. Tu sais, la grâce, ça ne nous permet pas de marcher dans n'importe quel chemin. La grâce nous permet de revenir dans le bon chemin. Peut-être que tu es loin de Dieu ce matin. Puis Dieu te dit, reviens, reviens à moi. Reviens à moi, fais un détour. Dans ma présence, reviens à moi ce matin. Reviens dans mes voies. Et je vais être avec toi. Je vais m'occuper du vent. Je vais m'occuper du vent. Les rêves que je t'ai donnés, l'appel que j'avais mis sur toi, je vais être avec toi. Je vais être le vent qui va souffler dans tes voies. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'a dit, ma présence est ici. Mais j'attends ta réponse qui va me dire, me voici. Me voici. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais vraiment prier pour toi. Pasteur, je me suis éloigné des plans de Dieu dans ma vie. Pasteur, je ne sais même pas c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie. Mais je veux m'arrêter un instant dans sa présence. Je le sais c'est quoi le plan de Dieu, mais je me suis éloigné du plan de Dieu parce qu'il y a eu des erreurs, parce qu'il y a eu des fautes, parce qu'il y a eu des difficultés. Mais ce matin, le Seigneur parle à mon cœur et me dit, c'est le temps de revenir. Peut-être que tu t'es éloigné des voies de Dieu ce matin. Tu es venu à l'église comme tu fais peut-être à tous les dimanches, mais tu sais que ton cœur est loin. Puis le Seigneur t'a dit, viens à moi ce matin. Ou peut-être c'est juste de dire, Seigneur, encore une fois, me voici. Me voici devant toi. Si c'est le désir de ton cœur ce matin, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Fais le détour ce matin dans sa présence, juste en te levant. C'est un détour ce matin. Seigneur, je viens dans ta présence. Me lève. Je veux revenir. Je veux te dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Là où tu es, juste de te lever. Pour certains, c'est un retour dans les voies de Dieu. Pour d'autres, c'est un cheminement qui commence pour découvrir le plan de Dieu sur ta vie. Pour d'autres, c'est de dire, juste finalement, de dire, Seigneur, je te confie tout. Il y en a qui sont dans des croisées de chemin. C'est comme si tu retiens certaines choses alors que Dieu te dit, non, laisse-moi le faire à travers toi. Tu as peut-être des choses à abandonner. Peut-être des choses à laisser de côté. Peut-être juste à laisser de côté ta détermination puis ton orgueil de dire, je vais le faire. Et de dire, non, Seigneur, j'ai besoin de toi, me voici. Il y en a, c'est juste parce que tu veux dire, Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Qui suis-je, oh Dieu? Qui suis-je? Mais il y a peut-être des choses que tu vois autour de toi qui te touchent. La souffrance, les besoins. Dis, Seigneur, qui suis-je? Mais j'aimerais ça faire quelque chose pour toi. Peu importe ce que ça va être. Peu importe ce que ça va être, je veux faire quelque chose pour toi. Me voici. Seigneur, je vais te prier pour chaque personne qui est debout. Toi, tu sais les raisons pour lesquelles ils sont debout. Tu connais les cœurs ce matin. Parce que tu connais nos cœurs, tu regardes à nos cœurs. Viens parler aux cœurs. Ceux qui ne connaissent pas ton plan pour leur vie, je te prie que tu te révèles à eux maintenant. Qui ressentent l'appel de Dieu sur leur vie, la raison pour laquelle tu leur as donné la vie. Le Seigneur, pour certains, c'est un retour à la foi, c'est un retour dans tes voies. Merci que tu nous accueilles à bras ouverts. Merci que dans ta grâce, tu nous pardonnes. Tu es le Dieu des imparfaits. Le Seigneur, tu vois nos désirs ce matin. Désir de te servir. Seigneur, le désir de te servir et de voir ta gloire agir à travers nos vies pour l'avancement de ton royaume dans notre province. Pour les gens qui sont autour de moi qui ne te connaissent pas. Pour les gens que je côtoie qui sont perdus, qui sont pris dans l'esclavage. Que Seigneur, tu te sers de moi. Et tu en recevras toute la gloire et toute l'honneur. Et tout le monde en dit amen et amen. Est-ce qu'on peut se lever et terminer avec ce chant, en faire une prière? Seigneur, donne-moi un cœur entier pour toi. Moi, un cœur entier pour toi.